Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
C'est vous le pirate. On parle depuis le début de la semaine de l'âge de la post-vérité. Hier, vous nous avez cité un article de Larry Penny, paru dans l'hebdomadaire de gauche britannique The New Statesman. Cet essayiste et célèbre blogueuse féministe demandait qu'on appelle un chat et que l'âge de la post-vérité soit rebaptisé franchement l'âge des foutaises, The Age of Bullshit.
Et oui, c'est un joli mot vulgaire, bullshit. Conneries, foutaises, foutage de gueule, baliverne. S'il y a un philosophe contemporain qui a réfléchi à ce mot, et bien c'est Harry Frankfurt qui lui a consacré un livre entier, On Bullshit, en 2005. Succès phénoménal, paru en français sous le titre de L'art de dire des conneries. Introuvable, il mériterait d'ailleurs d'être réédité. Frankfurt y distinguait clairement le menteur de ce qu'il appelle l'artiste en fumisterie. Le premier sait fort bien ce qu'est la vérité et il la viole délibérément afin de tromper son public, mais le second s'en moque. Il ne croit pas à l'existence de la vérité. Il prend appui sur des demi-vérités, des demi-mensonges pour édifier ses histoires. Il a tant brouillé les limites entre les deux qu'il ne sait plus lui-même s'il ment ou s'il dit vrai. Son discours est élaboré en fonction des croyances de son interlocuteur et de ce qu'il entend lui extorquer. Pour sa défense, l'artiste en fumisterie, poussé dans ses retranchements et mis en face de ses fariboles, vous déclare souvent que le système est pourri et qu'il ne fait que chercher à tirer son épingle du jeu. Bref, c'est le mensonge généralisé des élites, en quelque sorte, qui le contraint lui-même à mentir. Facile excuse. Frankfurt est l'un des premiers à avoir dénoncé le risque que fait courir à nos sociétés l'indifférenciation croissante de la vérité et du mensonge. Les civilisations, écrit-il, n'ont jamais connu et ne connaîtront jamais la prospérité sans disposer d'une masse d'informations factuelles fiables. Elles ne peuvent rester en bonne santé si elles sont contaminées par le virus redoutable de croyances erronées. Fin de citation. En effet, au plan individuel, je cite encore Frankfurt, nous ne pouvons agir en confiance et avec des chances raisonnables de succès que si nous disposons d'informations suffisantes. Bref, sans un accord préalable sur le sens des mots et la réalité de faits bien établis, il n'y a pas de société démocratique possible. En leur absence, ne reste plus que le recours à une autorité extérieure et surplombante, laquelle imposera ses vérités à la société en se portant garante d'une réalité dont elle réserve le pouvoir de la nommer. C'est ce qu'ont bien compris ceux qui ont pour projet de nous affaiblir, parce que nous sommes malgré tout des démocraties et qu'ils redoutent la contagion des idées démocratiques pour leur propre pouvoir.
Vous voulez parler de la guerre de l'information ?
Eh oui, Peter Pomerantsev, un spécialiste de la Russie, chercheur au think tank Center for European Policy Analysis, décrit les méthodes utilisées par le pouvoir russe pour manipuler l'opinion des pays où celle-ci peut se former librement comme les nôtres. Ainsi, prenez l'affaire du vol MH17 Amsterdam-Kuala Lumpur, abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine par un missile russe Buk le 17 juillet 2014. La commission d'enquête internationale qui a rendu son rapport en septembre 2016 a abouti aux mêmes conclusions que le bureau néerlandais de sécurité. Le missile a bien été tiré depuis le territoire séparatiste tenu par les Russes pro-russes en Ukraine. Mais durant les mois qui ont suivi cette bavure russe, le Kremlin a multiplié les versions alternatives. L'avion aurait été abattu par les Ukrainiens qui l'auraient pris pour un avion de combat russe. Les États-Unis l'auraient pris pour cible parce qu'ils croyaient que Poutine était à bord. Les cadavres retrouvés auraient été amenés d'ailleurs afin de tromper l'opinion mondiale, etc., etc. Comme l'explique Pomerantsev, ces opérations de tromperie institutionnelle ne cherchent pas tant à imposer une version alternative à la réalité qu'à saturer l'opinion publique en suggérant qu'il n'y a pas de vérité du tout, que tout est également fantaisiste et que chacun a bien le droit de proposer la version qui convient à ses intérêts. Et l'on retrouve, vous le voyez Florian, l'idée de post-vérité. Lori Penny, encore elle écrit à propos de la stratégie en galerie des glaces de la Russie de Poutine, c'est son expression, une explosion de fausses nouvelles et de trolls entretenus en ligne soutient le régime, pas simplement en déversant la propagande du Kremlin, mais en faisant en sorte que les citoyens n'accordent plus une confiance entière à quoi que ce soit lu ou entendu. Bref, faire croire que tout le monde monde manipule la vérité est une manière de faire accréditer ses propres mensonges. Le professeur de philosophie morale australien Peter Singer revient dans un article récent sur Project Syndicate sur les fausses nouvelles à usage électoral. La liberté de parole peut-elle protéger l'introduction de mensonges délibérés ? Premier constat, à cause de l'Internet, les rumeurs les plus folles se propagent de manière virale. En outre, l'usage récent de bots, ces programmes qui relaient et répandent les messages dans le paysage narratif et sur lequel se livre dorénavant la guerre de l'information, crée l'illusion que des milliers de gens ont repris le message. Les grands médias traditionnels s'acharnent à faire du debunking, de la démystification, c'est en pure perte. Les gens ne les lisent plus, nous avons affaire à une désinformation active. Il y a quelques jours, le ministre de la Défense pakistanais a menacé Israël d'une frappe nucléaire. Il avait été victime d'un faux selon lequel Israël envisageait une attaque nucléaire contre le Pakistan. Vous le voyez, les rumeurs les plus folles peuvent dorénavant déclencher des guerres.